VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Dans un tweet sur Internet, le président américain Donald Trump a de nouveau ce jeudi qualifié d'histoire bidon la possibilité d'une collusion entre ses proches et Moscou pendant la campagne présidentielle. Et ce, alors que le procureur spécial chargé d'enquêter sur l'affaire russe Robert Mueller cherche à savoir, selon plusieurs médias, si le président américain a entravé la justice. Ils ont fabriqué une collusion bidon avec l'histoire russe, a tweeté Donald Trump. Ils n'ont trouvé aucune preuve et donc maintenant ils se lancent dans l'entrave à la justice sur cette histoire bidon, a souligné le président américain. La politique reprend ses droits à Washington alors que le député républicain Steve Scalise, blessé par balle hier, est dans un état critique après chirurgie et pourrait subir d'autres opérations, selon l'hôpital de la capitale où il est traité. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Le numéro 3 de la Chambre des représentants a été blessé à Alexandrie, en Virginie, dans la banlieue de Washington, en même temps qu'un agent de police, un assistant parlementaire et un lobbyiste. L'assaillant, armé d'un fusil et d'un pistolet, a ouvert le feu sur un groupe de parlementaires américains qui s'entraînaient hier à Alexandrie, en Virginie, en vue d'un match caritatif de baseball ce jeudi. Le tueur, un certain James Hodgkinson, âgé de 66 ans, blessé dans une fusillade avec la police, a succombé à ses blessures. On ignore pour le moment le mobile de son crime, mais le FBI vérifie ses contacts ainsi que ses écrits sur les médias sociaux où il vouait aux gémonies le président républicain Donald Trump. Selon le député Jeff Duncan, Hodgkinson l'avait abordé avant de lui demander si les parlementaires qui s'entraînaient étaient républicains ou démocrates. Le suspect était un des bénévoles de la campagne du sénateur Bernie Sanders qui s'est dit révolté par cet acte abject.
Afrique maintenant, perturbations au Mali sur les réseaux sociaux, singulièrement Facebook. C'est ainsi que pendant 24 heures, les usagers de Facebook n'ont pas pu accéder à leur compte. Le gouvernement malien invoque des problèmes techniques, mais beaucoup de gens pensent à de la censure. C'est le cas d'Étienne Niaré, qui est journaliste stagiaire. Il lit l'interruption à la pré-campagne du référendum du 9 juillet prochain. On l'écoute.
Cette interruption est causée parce que sur ces réseaux-là, les jeunes arrivent à s'informer concernant la marche qui doit se tenir le samedi prochain. Et puis aussi, il y a une question de révision constitutionnelle aussi. Je pense que c'est tous ces trucs-là qui sont à la base de cette perturbation. Et puis on a vu aussi, le gouvernement malien sent qu'il y a un mouvement qui se prépare face à leur pouvoir, ils font de sorte que les jeunes arrivent à s'informer davantage.
Étienne Niaré, journaliste stagiaire au Mali. En Côte d'Ivoire, l'opposition organise ce samedi à Abidjan une marche pour protester contre la situation politique fragilisée par les mutineries de soldats mutins en mai. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affinguessan, appelle à une manifestation pacifique pour dénoncer les mutineries qui ont fragilisé l'autorité de l'État et ont porté un coup à la crédibilité des institutions. Ce parti estime que le pays ne dispose pas d'une armée républicaine, mais plutôt d'une milice composée d'ex-combattants. L'ancien premier ministre Pascal Affinguessan déplore aussi une justice aux ordres et la caporalisation de l'administration et des médias d'État. Le FPI, créé par Laurent Gbagbo, traverse une crise. Pascal Affinguessan est contesté par Abdourahmane Sangaré, fidèle parmi les fidèles de l'ex-président ivoirien, toujours détenu par la CPI à la Haye.
Au Burundi, un chauffeur de bus tué et 9 personnes blessées. Tel est le bilan d'un attentat à la grenade en début de soirée hier dans le quartier de Moussaga à Bujumbura. C'est ce qu'annonce ce jeudi le maire de la capitale, Freddy Mbonimpa. Selon lui, la grenade a été lancée près de la gare routière du quartier qui est proche d'un commissariat de police. Les autorités ont ouvert une enquête. Moussaga, un bastion de l'opposition dans le sud de la capitale, est depuis avril 2015 à la pointe du mouvement de contestation contre la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat contesté et sa réélection en juillet de la même année. Au Lesotho, petit état enclavé dans l'Afrique du Sud, l'épouse de Thomas Mbabane, le récent vainqueur des élections législatives nationales, a été tué par balle mercredi soir. Selon une source policière, Lipolelo Tabane, 58 ans, en instance de divorce depuis des années avec M. Tabane, a été abattu alors qu'elle circulait en voiture dans le village de Hamasana, à environ 35 km au sud de la capitale Maseru. Cette attaque intervient alors que Thomas Tabane doit être investi demain vendredi à Maseru dans ses fonctions de Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La Zambie se dirige-t-elle vers la dictature? C'est la question que se posent des observateurs au vu des derniers événements dans le pays. Le Parlement zambien a suspendu mardi 48 députés de l'opposition pour avoir boycotté un discours du président Edgar Lungu. Et puis le chef de l'opposition attend en prison son procès pour trahison. Un survol de la situation avec Jacques Aristide.
Les élus du Parti Uni pour le Développement National ne seront pas autorisés pendant un mois à entrer dans l'hémicycle et ne recevront pas leur salaire. Justifiant sa décision, le président du Parlement a accusé ses députés d'avoir commis une faute grave en boudant le discours du chef de l'État devant le Parlement en mars dernier. Patrick Matsibini les a sommés de reconnaître la victoire électorale d'Edgar Lungu en août dernier ou de démissionner. Le porte-parole de l'opposition, Charles Kakoma.
En vertu de notre constitution, les députés jouissent de la liberté d'expression, ce qui inclut le silence ou l'absence, ou encore ne peuvent pas assister aux travaux parlementaires en guise de protection. Cela fait partie de leurs droits constitutionnels.
L'affrontement politique remonte à la présidentielle de l'an dernier. Rival d'Edgar Lungu, l'opposant historique Haikande Hichilema conteste les résultats, jugeant la réélection de Lungu frauduleuse et illégitime, malgré sa validation par la Cour constitutionnelle. La spectaculaire arrestation du leader de l'opposition est survenue en avril dernier. Il est accusé par le pouvoir d'avoir entravé le déplacement d'un convoi du chef de l'État. Haikande Hichilema est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Mukobeko et attend l'ouverture de son procès devant la haute cour de Lusaka. Inculpé de trahison, un crime qui interdit sa libération sous caution, il risque de 15 ans de réclusion à la peine de mort. L'opposition et la société civile affirme que sa détention est politiquement motivée. Charles Kakoma.
Je l'ai visité hier et c'est terrible. Les conditions dans lesquelles il est incarcéré sont humiliantes. Elles sont inférieures à la norme et aucun être humain ne peut être assujetti à de telles conditions.
Des observateurs s'inquiètent de la dérive autoritaire du régime Lungu. Des ONG comme Amnesty International condamnent les récents événements et doutent de la légalité de la suspension des élus de l'opposition. Même la conférence des évêques catholiques de Zambie a fait une sortie hier. Pour elle, le pays se dirige vers la dictature.
En Somalie, au moins 18 personnes tuées lors de l'attaque de deux restaurants de la capitale Mogadiscio par un commando de 6 militants islamistes Shebab. L'attaque a débuté mercredi soir par l'explosion d'un véhicule piégé conduit par un kamikaze. Selon les autorités, la contre-attaque des forces de sécurité est maintenant terminée. Les assaillants ont été tués, a affirmé le porte-parole du ministère de la Sécurité, Mohamed Ahmed Arab. Au Maroc, le gouvernement sévit contre le mouvement de contestation qui secoue le nord du pays. La justice marocaine a condamné hier à 18 mois de prison ferme 25 membres de ce mouvement particulièrement actif à Al-Hoceima dans la région du Rif. Eric Manirakiza.
Le verdict est tombé hier en fin d'après-midi. Selon l'avocat de la défense, maître Mohamed Ziane, cette triste décision symbolise un refus patent de tout dialogue et va encore alimenter un peu plus la contestation. Pour lui, ce n'est pas du tout la bonne voie pour sortir de la situation. À la barre des accusés pour atteinte à la sécurité intérieure, ils étaient 32 jeunes, âgés de 18 à 25 ans. Ils ont été tous arrêtés il y a plus de deux semaines lors de heurts dans la ville d'Al-Hoceima. Sept d'entre eux ont comparu libres et ont été condamnés à des peines avec sursis et des amendes. Plus de 80 personnes ont été arrêtées, dont le leader de la contestation, Nasser Zefsafi, qui a été transféré à Casablanca en attendant son jugement. La ville d'Al-Hoceima est secouée depuis octobre par une grogne populaire pour dénoncer la marginalisation de la région septentrionale du Rif.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.